Du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères prieurs, bien chers frères religieux, chers messieurs les abbés, chers religieux, chers fidèles, d'abord, si vous voulez bien, ouvrons les yeux dans cette salle où nous nous trouvons, les greniers Saint-Jean. Ce n'est qu'un ensemble, un élément de ce gigantesque hôpital qui avait été fait ici fin du XIIe siècle, 1175. Regardez cette charpente du XVe siècle, ces chapiteaux d'une élégante sobriété. C'était simplement ici les greniers pour nourrir les 360 malades et le personnel qui était plus loin dans la magnifique salle des malades, encore plus belle que ces greniers. Et cette salle des malades était prolongée, comme il se doit, par un cloître et une chapelle. Car en ce temps, en chrétienté, le corps et l'âme étaient soignés. Parce que le corps et l'âme étaient aimés. Saint Pidis, dont nous fêtons le centenaire du décès cette année, avait écrit en 1910 « On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église, entendons l'Église catholique, pas la conciliaire, si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. La civilisation a été la voyons là. Elle est. C'est la civilisation chrétienne. C'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. » Et le Saint-Pape concluait par sa formule habituelle « Omnia instaurare in Christo ». Remarquons, chers fidèles, que Saint-Pidis parle d'un combat. Une lutte à mener, un combat incessant, permanent, combat temporel, social, politique à mener contre cette utopie malsaine, cette révolte, cette impiété. Mais d'où viennent cette utopie malsaine, cette révolte, cette impiété? Bien tout simplement du péché originel. Bien sûr, on n'en parle pas aujourd'hui, il n'a pas bonne presse, et pourtant, permettez, en ce jour où nous fêtons l'Immaculée Conception, que nous nous rappelions le dogme catholique à ce sujet pour nourrir notre foi. Nous savons que Dieu avait créé l'homme, Adam, le premier homme, dans l'état de justice originelle. Il l'avait doté, enrichi de la grâce sanctifiante. Dès le début, l'homme était là à l'état surnaturel. Il est destiné au ciel, pas pour la terre. Il n'y fait qu'y passer. Dès le début, même au paradis terrestre. Et puis Dieu l'avait doté aussi du don d'immortalité, l'homme ne mourrait pas, et puis ce don d'intégrité, cette exemption de la concupiscence. Survient le premier péché de nos parents et le péché originel dont nous héritons. Quel est ce mystérieux péché originel? On peut dire que c'est, en une comparaison, c'est comme une maladie, soit un état maladif, une disposition désordonnée en nous qui provient de la disharmonie, la dissolution de l'harmonie qu'avait créée la justice originelle. Imaginez par exemple un magnifique collier, des diamants, des perles précieuses, toutes bien disposées, mais liées par une chaîne. Et vous cassez la chaîne, il n'y a plus de collier. Les diamants, les perles restent, c'est vrai, mais il n'y a plus de collier. Et notons bien, ce péché originel, c'est pas simplement une pure privation. C'est plus que ça, c'est plus profond. C'est une habitude en nous, une habitude corrompue, comme une maladie permanente. Et de cet état de corruption naissent des actions, des pensées, des paroles déréglées. C'est un peu sué comme une maladie d'où surviendraient ou bien des évanouissements ou bien des vomissements. On dit il est malade et donc il s'évanouit. Il en est de même pour nous. Et mes frères, c'est très important de nous rappeler ça. Pie IX, en 1854, l'année même où il proclame le dogme de l'Immaculée Conception, rappelle à propos des rationalistes de son temps, « Ils ont certainement, dit-il, oublié la profonde et douloureuse blessure que la faute de notre premier Père a infligée à la nature humaine. » Deux points. « Les ténèbres se sont répandues dans l'esprit. La volonté est devenue encline au mal. » Et le pape donnait deux preuves. Même les plus célèbres philosophes de l'Antiquité, tout en ayant écrit des œuvres admirables, Mais ils les ont cependant souillés d'erreurs très graves, leurs œuvres admirables. Pensons sur l'esclavage et puis les questions de pureté. Et saint Paul aussi le dit, il parle, lui, de ce combat continuel. « Je sens dans mes membres une loi qui combat celle de mon esprit. » Et confessons, mes chers frères, entre nous, que nous n'aimons pas entendre ces choses-là. Eh oui, notre maladie. Saint-Louis-Marie de Montfort l'a décrite, on pourra reprendre quelques-unes de ses phrases, sur ce premier péché de nos parents. Comme il dit, il nous a tous gâtés, tous aigris, tous corrompus, comme le levain aigri corrompt la pâte où il est mis. Ajoutons-y nos péchés actuels, nos péchés personnels, ceux que nous avons commis, mes péchés à moi, mortels ou véniels. Même pardonnés, ils ont augmenté notre concupiscence, notre faiblesse, notre inconstance, notre corruption. Ils ont laissé de mauvais restes dans notre âme. C'est pas beau, ça sent mauvais. Et le saint apôtre Marial précise, nos corps sont si corrompus que la Sainte Écriture les appelle même corps du péché, conçus dans le péché, nourris dans le péché, et seulement capables de pécher. Ajoutons-y corps sujet à mille et mille maladies, corps qui se corrompt chaque jour, qui n'engendre que la gale, la vermine et la corruption. Et ça terminera au tombeau. Et notre âme, notre pauvre âme, comme dit encore Saint-Louis-Marie, unie à notre corps, elle est devenue si charnelle que l'Écriture sainte l'appelle chair. Et nous n'avons pour partage que l'orgueil, l'aveuglement dans l'esprit, l'endurcissement dans le cœur, la faiblesse, l'inconstance dans l'âme, la concupiscence, les passions révoltées, les maladies, tout. Ce n'est pas pour désespérer qu'il faut nous rappeler cet état. C'est parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Et c'est précisément pour réparer cet oubli fatal sur la connaissance du péché originel et ses conséquences que le pape Pie IX a cru bon de proclamer le 8 décembre 1854 le dogme de l'Immaculée Conception, la Mère de Dieu. Bien sûr, les catholiques y croyaient depuis longtemps, bien avant. Même les dominicains y croyaient déjà depuis des siècles. Simplement, dans sa sagesse, Dieu avait attendu le moment opportun pour faire proclamer par le souverain pontife ce dogme pour venir comme un remède à l'oubli du péché originel. Depuis la Révolution française, fondée justement sur le principe, on peut dire, anti-péché originel, la bonté native de l'homme. On avait bien vu les résultats, les premiers effets, les flots de sang de la guillotine, la vingtaine d'années de guerre à l'extérieur, et même à l'intérieur, le mariage et les familles disloquées, la suppression des corporations de métiers, livrant les ouvriers, les artisans à des patrons voltairiens, injustes, et la jeunesse laissée à des maîtres souvent athées et impies. Et Pie IX, habilement, au lieu d'attaquer tout de suite de front l'esprit révolutionnaire subversif, commence par proclamer le dogme de l'Immaculée Conception. Il dresse un exemple, une lumière, une beauté à nul autre pareil. Mais les méchants, eux, avaient compris. Pensons, rappelons-nous, que quand Pie IX proclame le dogme de l'Immaculée Conception, le gouvernement de Napoléon III fit grande difficulté pour que le texte papal fût publié en France. Incroyable ! Il finit par accepter, de mauvaise grâce. C'est que l'esprit révolutionnaire, l'esprit anticatholique, qui animait ces gens-là, avait compris le coup, on peut dire mortel, que ce dogme portait à leur faux principe de l'homme bon par nature. Rappelons un petit peu ce faux principe de l'homme bon par nature en citant le malheureux Rousseau dans une lettre qu'il écrivait à l'archevêque de Paris. Le principe fondamental de toute morale sur lequel j'ai raisonné dans tous mes écrits est que l'homme est un être naturellement bon, aimant la justice et l'ordre, qu'il n'y a point de perversité originelle dans le cœur humain et que les premiers mouvements de la nature sont toujours droits. Fin de citation. Eh bien, Pie IX lui répond, en 1854, le dogme proprement dit de cette bulle Ineffabilis Deus. Nous déclarons, nous prononçons et définissons qu'est révélée de par Dieu la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie, dès le premier instant de sa conception, a été, par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé et exempte de toute tâche du péché originel. Elle est la seule Immaculée Conception. Et la conclusion s'impose. Si elle est la seule Immaculée Conception, elle est la seule sans le péché originel. Autrement dit, tous les hommes ont le péché originel et les conséquences qui en découlent. Il n'y a qu'une Immaculée Conception. Elle l'a même confirmé à Lourdes. Je suis l'Immaculée Conception. 10 ans plus tard, en 1864, Pie IX, dans le Syllabus, condamne les fausses doctrines de son temps qui n'ont fait qu'empirer aujourd'hui. En particulier l'erreur qui affirme que l'Église doit se réconcilier avec le monde moderne issu de la Révolution française. Et là encore, notez bien, les ennemis de l'Église, ils sentent les choses et ils interviennent. Napoléon III va interdire aux évêques de France de publier le syllabus, parce qu'ils ont bien perçu, eux, c'était un coup mortel à leurs faux principes. Comme le dira un peu plus tard, en 1882, un franc-maçon de la ville d'Arras, je cite, « La base essentielle du catholicisme, c'est le péché originel, sans lequel le Christ n'aurait pas eu à venir. Renier ce dogme, c'est donc attaquer le catholicisme dans son fondement même. » Eux, ils comprennent le dogme à l'envers, mais ils le comprennent, et souvent mieux que nous. Mes chers frères, si nous vous rappelons cela, c'est parce qu'il ne faudrait pas que notre dévotion à l'Immaculée Conception soit sans doctrine, purement sentimentale. Si nous voulons vénérer en vérité l'Immaculée Conception, la Sainte Mère de Dieu, rendons-nous compte de ce que cela inclut. Nous l'avons dit, nous le répétons, d'abord, nous ne sommes pas, nous, Immaculée Conception. Et donc, il nous faut confesser notre état de pécheur par nature. Même baptisé, même confirmé, même nourri du corps et du sang sacré du Sauveur qui sera distribué tout à l'heure, nous demeurons radicalement malades, blessés. Et donc, nous avons une lutte à mener, un combat pour garder la santé spirituelle et pour l'augmenter. Et nous avons besoin de la grâce surnaturelle. En 1904, quand le pape Saint-Pie X fête le 50e anniversaire de l'encyclique de Pie IX, proclamant ce dogme de l'Immaculée Conception, le Saint-Pape Pie X écrit « D'où partent en réalité les ennemis de la religion ?» Entendez, la vraie religion. En ce temps-là, quand on parlait de religion, on comprenait la seule, la vraie. Il n'y a qu'une vraie religion qui nous relie au vrai Dieu. Les ennemis de la religion, pour semer tant et de si graves erreurs, dont la foi d'un si grand nombre se trouve ébranlée. D'où partent-ils ces ennemis ? Et bien le pape Saint-Pie explique, il commence par nier la chute primitive de l'homme et sa déchéance. C'est le début. Et le Saint-Pape continue, pure fable, dit-il, pure fable la tâche originelle et tous les maux qui en ont été la suite. Conséquemment, pure fable le mal introduit parmi les hommes, entraînant la nécessité d'une rédemption. Et Saint-Pie poursuit, tout cela étant rejeté, il est aisé de comprendre qu'il ne reste plus de place ni au Christ, ni à l'Église, ni à la grâce, ni à quoi que ce soit qui dépasse la nature. C'est tout l'édifice de la foi qui est renversé de fond en comble. Et le pape Saint-Pie, puisqu'il fêtait les 50 ans du dogme de l'Immaculée Conception, nous enseigne alors qu'en fêtant l'Immaculée Conception, il ne s'agit pas de répéter seulement une formule, sans chercher à la comprendre, il disait, dès que les peuples croient et professent que la Vierge Marie a été, dès le premier instant de sa conception, préservée de toute souillure, il est nécessaire qu'ils admettent et la faute originelle, et la réhabilitation de l'humanité par Jésus-Christ, et l'Évangile, et l'Église, et enfin la loi de la souffrance. Ah, mes frères, je sais bien, ce langage est terrible pour nous, il est dur, mais c'est la vérité. Et ça nous fait du bien. À vous remarquer, mes chers frères, la fête de l'Immaculée Conception tombe pendant le temps de l'Avent, toujours. Ce temps qui nous fait désirer, non pas tant la venue historique du Sauveur, il est déjà venu il y a 2000 ans, mais une augmentation de la présence de Dieu dans nos âmes par sa grâce. Mais regardez les collectes des 4 dimanches de l'Avent. Sans le péché originel, elles sont incompréhensibles. Permettez-moi de vous les lire. Réveillez votre puissance, premier dimanche d'avant, Seigneur, venez, pour que, dans le grand péril où nous sommes à cause de nos péchés, eh oui, ça ne va pas, donc on appelle à l'aide, nous puissions trouver en vous le défenseur qui nous délivre et le libérateur qui nous sauve. Et hier dimanche, deuxième dimanche de l'Avent, nous avons prié ainsi, excitez Seigneur nos cœurs pour préparer la route à votre Fils unique, afin que sa venue nous permette de vous servir purificatis mentibus, avec des esprits purifiés. Nous l'avons entendu tout à l'heure, Pie IX en 1854, qui disait « Les ténèbres sont répandues dans notre esprit, la volonté est devenue encline au mal ». Dimanche prochain, nous entendrons « Seigneur, prêtez l'oreille à nos prières, et quand vous nous ferez la grâce de venir parmi nous, apportez votre lumière, mentis nostre tenebras, pour chasser les ténèbres de notre esprit ». Nous sommes des malvoyants, des malentendants, nous ne comprenons pas. Et quatrième dimanche, excitez Seigneur votre puissance et venez, donnez-nous le secours de votre force infinie, et qu'avec l'aide de votre grâce, votre indulgente bonté nous accorde sans délai ce que retardent nos péchés. En latin c'est très beau, quod nostra peccata pepediunt, les péchés nous mettent des entraves aux pieds, voilà, on se prend les pieds, ça ne marche pas, on tombe. À cause de ce péché originel qui nous infeste. Nous avons besoin de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Première conclusion, si vous permettez. Méfiez-vous, chers fidèles, et fuyez même tous ceux qui nient le péché originel, quelle que soit la manière dont ils s'y prennent pour le nier. Nous sommes ici, dans ce magnifique ensemble de l'hôpital Saint-Jean. Je prendrai juste un petit exemple pris, pas dans ces greniers, dans la salle des malades, l'hôpital proprement dit. On a exposé, depuis déjà longtemps, dans cette magnifique salle des malades, la trop fameuse tapisserie de Jean Lursa, fabriquée en 1957. Et cet homme décrit dans ses tableaux les atrocités du XXe siècle. Bon, il n'en manquait pas. Les guerres, les massacres, la bombe d'Hiroshima en 1945. Simplement, il ne parle pas du communisme. Des centaines de millions de morts. Puis il prétend livrer un message de paix et de retour à la vie après ces désastres. Et qu'est-ce qu'il représente? Il va représenter l'homme nu, prenant racine au cœur d'une planète, ne faisant qu'un avec le monde végétal, animal et minéral. Un homme qui se régénère tout seul, tandis que l'univers se réorganise tout seul. L'homme, de concert avec les éléments naturels, participe à la bonne marche du cosmos. Il faut même profiter pleinement de la vie et de ses plaisirs. Et le point d'orgue, c'est sa dernière tapisserie qu'il a peu le temps d'expliquer, mais les dessins sont assez clairs. Il va même déjà exalter la fausse religion aztèque avec ses divinités serpentines, son culte du soleil et ses sacrifices humains. Peut-être un homme savant, ce Jean Lursa, mais il ignorait son catéchisme, il ignorait le péché originel, ses conséquences, comme les guerres par exemple, qui sont des conséquences du péché originel. Et toutes ces conséquences néfastes ne peuvent être réparées que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième conclusion, si vous permettez, la procession que nous allons faire, chers fidèles, après cette messe. Avouons-le, c'est un peu une folie, dans l'état actuel de la France, où le vice et le rejet de Dieu s'étalent partout dans les rues. Mais, puisque nous commémorons l'Immaculée Conception à Mère de Dieu, osons marcher dans les rues, même si nous sommes peu nombreux, à la lumière de nos cierges et en chantant, en priant. Si vous voulez, permettrez de donner quelques intentions pour cette procession. D'abord, de proclamer, même si le monde ne comprend pas, que seule la Mère de Dieu est c'est la seule créature sans le péché originel, avec notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Parce qu'elle est pleine de grâces, lesquelles grâces ont été méritées et appliquées par avance par son Fils. Et donc nous réjouir de sa plénitude de grâce qui est tout à notre avantage. Dans ce monde démocratique, comme ils disent, on veut que tout le monde se ressemble. C'est affreux. Nous, au contraire, il nous faut être heureux qu'il y ait une personne exceptionnelle qui nous dépasse tous, qui est conçue sans le péché originel. C'est notre intérêt. Parce que justement, nous qui naissons avec le péché originel, nous avons besoin que elle, qui n'a pas besoin de lutter contre le péché d'une quelconque manière, qui est pleine de grâce, elle n'a pas à se convertir comme nous. Elle n'a pas à lutter contre le péché. Elle n'a pas à traîner ce fardeau plus ou moins lourd tout au long des ans, non. Donc elle peut mettre à notre service toute sa puissance de grâce, sa puissance de conversion. Pourquoi il ne faut pas hésiter à la prier, à l'invoquer. Et je vous rappelle la très belle invocation, notre âme de la Sainte Espérance, convertissez-nous. Il faudra que nous lui demandions pendant cette procession, en ce jour de l'Immaculée Conception. Deuxièmement, pendant cette procession, nous aurons à cœur de confesser que nous sommes pécheurs, oui, vraiment, pécheurs, et beaucoup plus que nous ne pouvons nous l'imaginer. Le Saint Curé d'Ars, c'était quelqu'un, n'est-ce pas? Il avouait à une de ses fidèles, « Ma fille, ne demandez pas à Dieu la connaissance totale de votre misère. Je l'ai demandé une fois, et je l'ai obtenue. Et si Dieu ne m'avait alors soutenu, je serais tombé à l'instant même dans le désespoir. Je fus tellement effrayé de connaître ma misère que j'implorai aussitôt la grâce de l'oublier. » Le Saint Curé d'Ars, mes chers fidèles. « Et Dieu m'a entendu. Mais il m'a laissé assez de lumière sur mon néant pour me faire comprendre que je ne suis capable de rien. » Et c'est pourquoi, mes chers fidèles, pendant cette procession, nous ne manifesterons pas en criant des slogans contre les méchants. Non. Nous confesserons nos péchés à Dieu. Nous dirons que nous avons foi dans le dogme du péché originel qui nous atteint chacun personnellement. Car c'est à Dieu que nous adresserons pendant cette procession. Nous n'aurons pas de banderole, de calicot, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, précédée par l'eau bénite, la croix encadrée par deux acolytes portant la lumière. Et si nous pouvions, nous devrions marcher comme les premiers chrétiens dans les processions à Rome après la paix constantinienne, pieds nus, revêtus d'un vêtement rugueux, nous accusant de nos péchés qui sont la cause des malheurs de notre temps. Et nous prierons le chapelet à la main, content que Dieu nous laisse l'occasion de faire pénitence, de pleurer nos péchés qui sont la cause de tant de drames dans l'Église et en France aujourd'hui. Troisièmement, pendant cette procession, nous penserons à rappeler que la France officiellement athée, c'est un fait, cependant notre Seigneur Jésus-Christ est le roi des sociétés temporelles, depuis la plus petite famille jusqu'à l'État, en passant par les écoles, l'armée, les hôpitaux, les cours de justice, que sais-je encore, tout, omnia in fora in Christo, omnia, tout dépend de lui. Oui, et nous proclamerons, quel que soit notre petit nombre, quel que soit les regards qui seront portés sur nous, nous proclamerons par cette procession que notre Seigneur Jésus-Christ doit être honoré publiquement par les chefs des différentes sociétés civiles, depuis le chef d'État jusqu'au professeur dans son école, le médecin dans l'hôpital, le commerçant dans sa boutique, tous, car Jésus-Christ est leur souverain, il est leur roi. À chacun d'eux, il redit comme à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Et mes frères, en faisant cette procession, nous ferons pénitence aussi contre cet athéisme public, social, politique. C'est la plus grande plaie des temps modernes. Et c'est pourquoi il ne sert à rien de prétendre guérir la société civile de ses désordres, que ce soit les avortements, l'euthanasie, les violences physiques, l'afflux d'étrangers, que sais-je encore. Non, ça ne sert à rien. Si Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas remis à la tête du pays, aucune élection, aucune manifestation, si gigantesque soit-elle, ne peuvent suffire à remettre de l'ordre. Parce qu'il y a le péché. Il faut le Sauveur Jésus-Christ, tant pour les individus que pour les sociétés. Quatrièmement, dans cette procession, nous témoignerons sans respect humain auprès de ceux qui nous verront, qui nous entendront, témoignerons notre foi, notre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Vous aurez à cœur, chers fidèles, de vous rappeler que cette procession a lieu après la messe. Je pense que plusieurs d'entre vous y communieront, et donc ils se rappellent qu'ils seront des Christophores, des porte-Christ. Jésus-Christ Eucharistie sera en eux. Il faudra que cette lumière intérieure, j'allais dire, soit bien plus visible que le cierge qu'ils porteront à la main. Faisons bien notre action de grâce dans le recueillement, sans nous laisser distraire. Que ce soit comme une traînée de lumière qui traverse la ville d'Angers jusqu'à la cathédrale. Lumière intérieure de la Sainte Foi, la Divine Charité, et puis cette lumière extérieure. La post-communion de la messe de ce jour peut nous aider à réfléchir. Demandons à Dieu, rappelons-nous qu'il s'agit de l'Immaculée Conception, que les sacrements que nous avons reçus, Seigneur, notre Dieu, qu'il répare les blessures en nous de cette faute-là, le péché originel, dont vous avez préservé par un privilège singulier la conception immaculée à bienheureuse Vierge Marie. Ces sacrements qu'il répare, cet aspect réparateur. Sachons, chers fidèles, plus nous avons conscience de notre maladie originelle, plus nous désirerons le Sauveur, plus nous jouirons de sa divine présence, car il aura plaisir à venir nous soigner. Enfin, et je terminerai par là, dernier point de cette procession, qu'elle nous rappelle, c'est le but de toute procession dans la liturgie catholique, que nous sommes sur terre dans le temps, en marche vers le ciel, normalement. Que cette marche est longue, hasardeuse, elle réserve des joies et des peines. Concrètement, elle sera brève, notre procession, il faudra quand même faire l'effort de la montée Saint-Maurice jusqu'à la cathédrale, peut-être supporter un peu de vent sur le pont de Verdun. Rappelons-nous, mes chers frères, à Lourdes, l'Immaculée Conception dit à Sainte Bernadette, « Je ne promets pas de vous rendre heureux sur terre, mais au ciel. » Y croyons-nous à ce ciel, mes chers frères? Et si nous y croyons, le voulons-nous? Et à tout prix? Même au prix des croix, des épreuves? Mes chers frères, demandons la grâce pendant cette messe. On peut certainement penser que la Vierge Marie, l'Immaculée, Dieu du ciel, se réjouit de cette messe solennelle qui a été chantée comme pendant des siècles et qu'elle veut répandre des flots de grâce dans nos âmes. Nous demanderons spécialement dans cet esprit-là qu'elle sache nous faire percevoir les pièges de ce monde, qu'elle nous garde tous ces plaisirs sensuels, de ce confort qui nous fait fuir la croix de Jésus, qui est pourtant l'unique clé pour entrer au ciel. Et puis nous penserons à nous examiner sur la place que nous faisons dans nos journées au chapelet. Est-ce que vraiment nous méditons chaque jour en entier les 5 dizaines bien comme il faut, seul ou en famille? Qui peut dire ici qu'il fait ça chaque jour, 365 jours par an? Et pourtant à Fatima, la Vierge Immaculée donne la méditation des mystères du chapelet comme moyen pour hâter la fin de la guerre 14-18. Imaginez, la guerre 14-18, le chapelet, un chapelet par jour. Et à Pontmain, avec, en 1871, pareil, prier pour arrêter l'invasion prussienne. Ce qui nous étonne, et ça nous manquons de foi, et nous demanderons cette foi à l'Immaculée ce soir, c'est cette disproportion entre un moyen d'apparence insignifiant, chétif, un simple chapelet, et des résultats si importants. Et bien c'est ça, mes chers frères, le mystère de la Vierge Marie de l'Immaculée. Et nous rappellerons, en terminant, que notre Seigneur a affirmé vraiment, et sachant que le ciel et la terre passeront, ses paroles ne passeront pas, affirmé du haut de la croix, en se tournant vers sa mère, « Femme, voici vos fils », et en se tournant vers nous, « Voici votre mère. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.